franceinter.fr.
Revue de presse, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour Patricia.
Marseille et ses quartiers nord se rappellent à notre souvenir.
Ouais, ce n'est pour le moment qu'une brève sur le site de la Provence. Des rafales de 9 mm tirées cette nuit au pied de la cité des Lauriers. Trois jeunes sont morts, deux avaient 15 ans, selon donc les premières infos que la Provence a pu collecter auprès des marins-pompiers marseillais. Et voilà qui nous replonge au cœur de ces quartiers nord, théâtre d'une enquête passionnante à lire dans Le Monde ce dimanche. Ça commence comme ça. C'était une nuit de Mistral Baston, une de ces soirées où les Marseillais préfèrent rester chez eux, de peur que le vent les rende fous. Sauf que, eh bien, le vent n'y est pour rien. Ce n'est pas le vent qui, ce soir de janvier, a transformé en torche géante la foreuse de Bouygues sur le chantier de la future rocade marseillaise L2. Ce n'est pas le Mistral qui retarde l'immense programme de rénovation urbaine dans ces quartiers et fait disparaître dans les airs des millions d'euros d'argent public. Non, ce que révèlent Lorraine de Fouché et Sorine Silo dans ce western mafieux à la sauce marseillaise, eh bien c'est le business des raquettes de chantier. Des engins détruits, des ouvriers menacés, des sites attaqués. Et quelques jours plus tard, il y a des entreprises de gardiennage qui viennent proposer leurs services, expliquant, vous comprenez, que la tension monte, qu'il faut d'urgence embaucher des jeunes du quartier, sinon ça va vraiment devenir dangereux. Alors les entreprises du BTP, eh bien, achètent la paix sociale, embauchent une douzaine de jeunes, pas méchants mais ingérables, comme les décrit un chef de chantier, et les attaques s'arrêtent. Marseille, quartier nord où la rénovation urbaine, avec les meilleures intentions du monde, comme toujours, est devenue une guerre de reconquête territoriale, des mots même du procureur de la République, cité dans l'article du Monde. Les réseaux très organisés du trafic de drogue ont bien compris qu'ils étaient en train de perdre le contrôle de ces nouveaux quartiers nord rénovés, alors ils se nourrissent sur la bête tant qu'ils peuvent, en multipliant donc les raquettes de chantier, en semant la peur chez les pros du BTP, ils les obligent à leur payer de fausses prestations de gardiennage, et ils se payent grassement au passage. À Marseille, les chantiers durent trois fois plus qu'ailleurs et le Mistral n'y est pour rien. Un policier conclut ainsi l'article intitulé « Du goudron et des thunes ». Tous ceux qui organisent ces raquettes ont retourné à leur avantage la stigmatisation des cités, ce qui faisait obstacle à leur accès à l'emploi. La peur, la violence, tout ça est devenu un argument marketing.
Et 10 ans après les révoltes dans les banlieues françaises en 2005, le vrai changement se fait encore attendre. C'est le Parisien qui fait ce constat ce matin.
Certes, écrivent Marc Payet et Henri Vernet dans Le Quotidien, on n'a plus connu depuis 2005 une telle explosion généralisée. Certes, des milliards d'euros ont été injectés pour abattre des tours, pour rénover des quartiers, mais en matière d'emploi, comme de lutte contre les inégalités, eh bien les résultats se font encore attendre. Le Parisien est allé interroger le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, celui-là même qui avait décidé d'instaurer l'état d'urgence en France le 8 novembre 2005. Il dit ses regrets, celui d'avoir vu sa loi pour l'égalité des chances détricotée, et celui de voir s'installer un renoncement qui nourrit aujourd'hui les lectures sécuritaires et identitaires et gangrène l'ensemble de la société française. Dominique de Villepin, pour qui il est urgent de reprendre l'initiative et recoudre ensemble le territoire national. Les cicatrices de 2005, mal recousues assurément, elles affleurent dans le dossier que Politis consacre cette semaine à la génération racaille, celle que Nicolas Sarkozy avait juré de nettoyer au Karcher. La génération de ceux qui ont brûlé donc des voitures, affronté les CRS et détruit des bâtiments publics il y a 10 ans, on les retrouve aujourd'hui pères de famille et citoyens rangés. Politis dresse notamment le portrait d'Eliott, 14 ans à l'époque, en Seine-Saint-Denis, un ado plutôt à l'aise à l'école, mais ado à vif. Lui-même est surpris aujourd'hui quand il relit la violence des textes de rap qu'il écrivait à l'époque. Brûler et caillasser, c'était une façon de capter l'attention en se distinguant. Et justement, Eliott nous raconte la première fois où lui et ses copains ont voulu incendier une voiture. On a envoyé deux mecs acheter de l'essence, mais comme ils ont vu que le diesel était moins cher, ils nous ont ramené une bouteille de gazole, sauf que ça brûle pas, le gazole. Aujourd'hui, Eliott est devenu cadre dans une entreprise de nettoyage. Il se retrouve dans la situation, c'est lui-même qui le dit, de celui qui doit faire parfois le sale boulot, arnaquer des employés sur leurs indemnités de licenciement parce qu'ils savent à peine lire. À l'époque, les émeutes, c'était pour se faire entendre, en vrai, pour dire que chez nous, c'était la merde, que 80% des gens ici vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, je n'irai plus brûler des voitures, limite, j'en aurai rien à foutre, nous dit encore Eliott. En devenant un salarié, en prenant sa place dans le système, le jeune homme en est venu à se poser la question, est-ce que je suis toujours un mec de cité ? Les émeutiers de 2005 nous disent donc qu'ils ont changé. Autour d'eux, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Pour le sociologue Fabien Truong, toujours dans Politis, le regard négatif contre les jeunes des cités, contre lequel les jeunes des cités voulaient s'élever en 2005, eh bien ce regard s'est encore accentué avec la question de l'islam et de l'identité nationale qui évolue, polluer encore plus les débats. Stéréotypes, stigmates ont été renforcés dans les discours des médias dominants. Le tout est résumé par Naoufel de Clichy-sous-Bois. Ça donne: les mauvais regards, ça fout la haine, mais je comprends les gens. Quand tu regardes la télé, tu ne peux qu'avoir peur.
Du front républicain au flou républicain.
C'est à lire dans le journal du dimanche et dans Le Monde. Les atermoiements du Parti Socialiste à un gros mois maintenant du premier tour des régionales. Que feront les socialistes si, comme l'annoncent certains sondages, ils arrivent dans plusieurs régions au soir du 6 décembre, troisième derrière le Front National et les Républicains? Le JDD pose l'équation. Si le PS se retire, il disparaît politiquement pendant 6 ans et n'aura plus aucun élu régional. S'il se maintient, il prend, ici ou là, le risque de faire gagner le FN. On va pas tourner autour du pot. Ici ou là, c'est en région PACA, avec Marion Maréchal Le Pen, et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen, favorite au premier tour. Faire front contre le front, l'idée semblait une évidence il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, quand vous voyez un Xavier Bertrand qui épouse et devance les propos du FN, on ne peut plus faire de front républicain, nous explique un membre du gouvernement dans le JDD. En PACA, c'est Patrick Mennucci, socialiste marseillais, qui surenchérit. Est-ce qu'on se retire pour Xavier Bertrand? Ça, on peut le comprendre, mais Christian Estrosi, Le Pen, c'est pareil. Dans Le Monde, on s'amuse de voir que la gauche refuse de se poser cette question car ce serait anticiper la défaite. Mais on note aussi le piège schizophrénique dans lequel s'enferment les candidats, les Républicains, Bertrand et Estrosi en tête. Et eux, ils avaient commencé leur campagne sur des thèmes très très droitiers. Ils se recentrent ces derniers jours, ne pas insulter l'avenir, hein, ne pas braquer les voix de gauche qui seront nécessaires dans l'entre-deux tours. Le tout sous le regard goguenard de ce cadre du FN. En PACA, il résume, Estrosi sait qu'il a besoin de réserves à gauche, et en même temps, il sait qu'il, s'il ne tient pas un discours assez à droite, eh bien, il va souffrir. Les journalistes du Monde concluent, ce flou républicain, il ne devrait pas se dissiper avant 2017.
Et si vous nous écoutez ce matin, c'est que vous avez survécu à l'heure d'hiver, non? Il paraît que j'ai lu dans le Libération.fr, le changement d'heure tue, c'est vrai ça?
Oui, c'est sur les routes que ça se passe, nous dit Libération, et c'est des explications qui sont fournies par l'Observatoire interministériel de la sécurité routière, c'est vous dire si c'est sérieux. Écoutez, l'arrivée de l'heure d'hiver provoque instantanément une surmortalité dans les tranches horaires de transition entre les états diurnes et nocturnes. En clair, ça veut dire qu'il fait nuit plus tôt, les automobilistes sont plus nombreux à rentrer du boulot entre chien et loup, et le résultat, eh bien, c'est que l'an passé, le mois de novembre, celui qui suit de quelques jours le changement d'heure, il a été le plus meurtrier de l'année. Rassurez-vous tout de même, Libération ne nous laisse pas désarmés face à un tel péril, des solutions existent. Il suffit de porter des vêtements clairs, voire des bandes réfléchissantes pour être bien visible sur la route. Tant pis pour le style, nous console Libération.fr, très satisfait de nous donner au passage un argument imparable pour tous ceux qui voudraient en finir avec ces changements d'heure.
C'est pour ça que vous avez des bandes fluo sur vos manches, Pierre Veil, je me demandais. C'était la revue de presse de Camille Magnard.